Les conditions générales évaporées. Par Bernard Henbert. Lu par Jean-Marie Chazot. Le Feel Good Festival devait se dérouler à Hawaï du 27 au 30 juin 2024 avec Alice on the Roof, Loïc Noté, Patrick Fiori, Christophe Willem, etc. Il a été reporté à l'année suivante pour cause de fortes intempéries. Rebondissement au début du mois de novembre 2024. Le site de cette activité annonce que l'association qui est à l'initiative du festival a fait aveu de faillite, qu'importe le projet. Ceci est notre dernier message puisqu'un curateur a été désigné par le tribunal de commerce. C'est désormais à lui que revient de communiquer sur la suite des événements. Parmi les nombreuses réactions que cet avis suscite sur les réseaux sociaux, voici celle d'Élodie. C'est vraiment très malhonnête. Jouer sur les mots en parlant de report et non d'annulation pour éviter de rembourser, puis se mettre en faillite quelques mois plus tard, honteux. Réaction justifiée ou excessive d'une internaute. Voici les faits tels qu'ils se sont déroulés avant cette sombre issue. Un cas de force majeure ? Non. Il pleut beaucoup durant ce printemps 2024. Et une dizaine de jours avant son déroulement, les organisateurs du Feel Good Festival d'Hawaï annoncent qu'ils l'annulent en expliquant sur leur site « Le terrain est considéré comme instable par les autorités compétentes. Il nous est malheureusement impossible de monter les structures nécessaires au bon déroulement du festival. » Pour eux, il en va de la sécurité du personnel et des festivaliers. Il est notamment impossible d'installer la scène, la terrasse VIP ou l'espace prévu pour les personnes en chaise roulante. Ses intentions et cette décision sont courageuses. Mais ils ajoutent que tout ceci n'a pas été pris à la légère et s'inscrit dans un cas de force majeure. Pour eux, cette situation est indépendante de leur volonté. Ils annoncent enfin que les billets restent bien sûr valables pour l'édition de l'année suivante. Il n'est pas indiqué s'ils rembourseront les tickets des festivaliers qui n'ont ni la possibilité ni l'intention d'assister à l'édition suivante. Est-ce la même programmation qui sera proposée ? Aucune information en ce sens, sinon une promesse pour 2025. Seront alors fêtés les 10 ans du festival et les organisateurs mettent déjà tout en œuvre pour faire de cette célébration un événement mémorable. Testachat réagit en affirmant que les festivaliers de 2024 doivent pouvoir être remboursés s'ils le souhaitent. Dans un premier temps, pour RTL, le 17 juin 2024, l'association de consommateurs remarque que sur le site internet du festival, il n'y a aucun texte présentant les conditions générales, et donc de constater qu'on ne peut pas vérifier ce à quoi l'organisateur s'était engagé. Deux jours plus tard, Julie Frère, sa porte-parole, est interviewée par la RTBF pour le journal télévisé de la mi-journée. Elle y explique qu'après enquête par ses services, elle peut annoncer que le texte de ses conditions générales a été retiré récemment du site et qu'il mentionnait bien des possibilités de remboursement. Il faut savoir que pour cette 9e édition, le festival a bien effectué des remboursements, mais uniquement pour une journée en ce qui concerne une des affections, celle de Yannick Noah. De plus, Julie Frère estime que la météo en Belgique ne devrait pas être considérée comme un cas de force majeure. Elle indique que c'est plutôt un élément qui doit être impérativement pris en compte dans le cadre de l'organisation du festival. Cet exemple est particulièrement instructif. Il montre qu'une association importante de consommateurs souhaite que les sites d'organisateurs culturels ne doivent pas se contenter simplement d'afficher un règlement du visiteur, dont diverses clauses ne sont souvent là que pour limiter les droits du public, mais qu'il convient d'y prévoir un texte de conditions générales, une forme de contrat qui lie les deux parties. Elle considère également que la norme est, lors d'un report ou d'une annulation, le remboursement des usagers qui le souhaitent, et indiquer le contraire pourrait s'apparenter à une clause abusive. Ce n'est pas la première fois que je constate qu'en cas de report, des organisateurs culturels entretiennent le flou en indiquant qu'un élément de leur obligation, à savoir, bien entendu, vos tickets restent valables. Une législation, selon moi, devrait préciser leur obligation de mentionner également dans le même paragraphe la possibilité de remboursement, son délai et les démarches concrètes à entreprendre pour que l'usager puisse retrouver le plus rapidement possible son dû. Il paraît évident que les responsables d'activités culturelles en plein air doivent prendre en compte dans leur organisation les évolutions climatiques qui vont aller à l'avenir dans le sens de précipitations plus fortes et fréquentes ou de chaleurs excessives. Et aussi mieux négocier en ce sens leurs éventuels contrats avec leurs assureurs, le recours à ceux-ci n'étant pourtant pas légalement obligatoire. Ceux qui attachent beaucoup d'attention et de financement à pareilles précautions auraient même intérêt à l'indiquer comme un atout dans la présentation au public de leur activité et dès le moment où les préventes vont commencer. Test achat à l'amiable. Par rapport à ce type de plainte, Test Achat demande à la personne qui l'interpelle son numéro de membre et ne prête son concours que dans le cas où, au préalable, l'entreprise ne lui a pas répondu dans un délai de 2 semaines ou si elle refuse la demande de remboursement. Dans ce cas, l'association de consommateurs souhaite recevoir un exposé des faits, l'objet précis de la demande, la référence client-dossier de l'entreprise concernée, ainsi qu'un dossier de pièces lisible et complet, comprenant copie de la réclamation à l'entreprise et copie de tout autre document utile, contrat, bon de commande, facture, échange de mail, courrier, etc. Elle précise également ainsi les limites de son rôle. Nous attirons votre attention sur le fait que nos démarches constituent des tentatives de règlement à l'amiable. Nous n'avons pas le pouvoir de contraindre la partie adverse. L'issue de nos interventions dépend dès lors de la volonté des entreprises concernées de trouver une solution. S'il s'avère que nous ne parvenons pas à trouver un accord avec l'entreprise, nous n'entamons pas d'action en justice individuelle. Vous devrez évaluer la possibilité de porter votre affaire en justice. Un article de Kamel Azouz, publié par la RTBF le 19 juin 2024, indique que le cas de ce Feel Good Festival est intéressant car c'est, pour Test Achat, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La puissance médiatique de cette association de consommateurs est telle que cette thématique de non-remboursement dans le secteur culturel est ainsi entrée dans l'actualité belge à la mi-juin 2024. Peu de class action. Ce journaliste de la RTBF a questionné Étienne Mignolet, le porte-parole du service juridique du Service public fédéral économie. De façon globale, la réponse officielle se résume dans le fait que l'usager doit voir son ticket remboursé s'il le souhaite, sauf si l'activité n'a pas lieu pour cause de force majeure, ce qui n'est pas le cas lors de pluies en Belgique, même répété. Le problème qui demeure pour l'usager réside dans le fait que si l'organisateur ne concrétise pas ou conteste pareil remboursement, il doit, s'il cherche à solutionner seul son cas particulier, faire appel à un juge, et les frais qu'une telle démarche implique sont en général dissuasifs par rapport à l'importance des tarifications culturelles. Bien sûr, il existe, au niveau fédéral belge, un service officiel de médiation pour les consommateurs auquel il peut être fait appel gratuitement, mais rien ne dit que la démarche sera concluante si l'organisateur persiste dans son refus. Parmi les solutions à envisager, il existe aussi la class action. Il s'agit d'une action judiciaire entreprise par un grand nombre de personnes qui ont toutes subi le même préjudice. La première class action a eu lieu aux États-Unis lors de l'explosion d'un cargo en 1950 qui avait coûté la vie à plus de 580 personnes. Des class action existent également en Grande-Bretagne ou au Québec. Ces actions collectives regroupent en général un grand nombre de plaintes individuelles en un seul procès qui permet d'assurer un verdict unique et non plusieurs décisions de justice, parfois contradictoires. En France et en Belgique, cette façon d'agir a été reprise et adaptée de façon fort restrictive et plus d'un demi-siècle plus tard. Elle y est rarement utilisée en ce qui concerne des conflits culturels. Clause abusive. Selon M. Mignolet, lorsqu'on réserve ainsi un billet pour un spectacle, c'est un contrat que l'on conclut avec une entreprise ou un organisateur. S'il n'y a pas de condition générale de vente, ou s'il y en a mais que le point qui nous occupe n'est pas mentionné, l'organisateur ne peut pas imposer de facto un non-remboursement. Comme dans ce cas-là, rien n'est prévu contractuellement, ce sont les règles du Code civil qui doivent s'appliquer. Ainsi, le consommateur garde le droit d'obtenir un remboursement. D'autre part, s'il est indiqué dans le contrat qu'il n'y a pas de remboursement à prévoir, on peut alors envisager l'éventualité d'une clause abusive. Pour ce Code des droits économiques, c'est probablement une situation qui engendre un déséquilibre important et manifeste entre les droits et obligations des deux parties. Seul un juge peut se prononcer sur ce fait et par rapport à un exemple concret. Tout usager culturel peut se sentir solidaire d'organisateurs qui doivent affronter des intempéries massives et inattendues, mais cette attitude devient bien problématique lorsque sont retirées du site internet de ceux-ci des conditions générales qui mentionnaient des possibilités de remboursement, et cela au moment où il fallait envisager de les appliquer.